le magazine des Nations Unies.
Ça bouge de tous côtés pour appeler la classe politique congolaise au dialogue. La MONUSCO, mais aussi les ambassadeurs des pays africains accrédités à Kinshasa, réaffirment leur soutien aux facilitateurs désignés par l'Union africaine. Les détails dans une analyse de Jean-Pierre et Lali Coco, c'est dans un instant. L'allaitement maternel a connu des avancées en RDC, même si les efforts restent encore à faire. L'UNICEF appuie le gouvernement à travers la sensibilisation, l'état de lieu de l'allaitement maternel en RDC et ses avantages avec une experte de l'UNICEF qui sera notre invitée. La Banque africaine de développement BAD se félicite des performances économiques engrangées par certains pays africains. La RDC fait partie du lot. Cette institution bancaire africaine a publié son rapport 2016 intitulé « Perspectives économiques en Afrique ». Et voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Nous le disions, la MONUSCO réaffirme son appui aux facilitateurs désignés par l'Union africaine, et ce, conformément à la résolution 22-117 du Conseil de sécurité sur le dialogue, position exprimée mercredi dernier à Kinshasa par le porte-parole intérimaire de la MONUSCO. Et la MONUSCO n'est pas seule dans cet élan de soutien. Jean-Pierre Elali Coco dans ce studio pour nous en parler. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Tina, bonjour aux auditeurs de Radio Capi.
Alors Jean-Pierre, il faut dire que ça bouge de tous côtés pour la tenue du dialogue politique en République démocratique du Congo.
Oui Tina, les intentions se conjuguent avec les actes pour donner un coup d'accélérateur à la tenue de ces dialogues. La MONUSCO par exemple réaffirme son soutien aux facilitateurs désignés par l'Union africaine. Le porte-parole intérimaire de la mission l'a dit mercredi dernier à Kinshasa lors de la conférence Ekdo des Nations Unies. Théophane Kinda.
La position que nous avons d'une manière claire, c'est appuyer le facilitateur désigné par l'Union africaine. Ça, c'est notre position. Et tous nos efforts sont concentrés dans la recherche de ce consensus avec tous les acteurs, la RDC. C'est ça nos efforts et c'est ça notre position. Nous n'avons pas une autre position.
Cette position fait suite à la déclaration de l'UDPS et des autres forces de l'opposition recusant M. Eden Kodjo comme facilitateur. Pour la MONUSCO, les dialogues, les cadres par excellence, des règlements des divergences observées dans la classe politique et congolaise en vue d'un processus électoral crédible et transparent.
Les dissensions ou les divergences qu'il y a, on les note. On ne peut pas nier que cela existe. Ça existe. Mais seulement, il faut aller au-delà. Il faut se surpasser. Et c'est ça ce que les Nations Unies sont en train de faire en essayant, par les bons offices, d'amener tous les acteurs, se concentrer sur un objectif clair, aller au dialogue, dans le but de préparer le terrain pour qu'on puisse organiser des élections crédibles, transparentes, pour le bonheur des Congolais.
Plus que jamais, nous devons rester soudés derrière les facilitateurs d'Eden Kodjo pour l'aider à accomplir sa tâche, a déclaré jeudi pour sa part Maman Sidikou, chef de la MONUSCO au cours de la réunion du groupe de soutien à la facilitation. Sur la même lancée, Eden Kodjo reçoit les encouragements des ambassadeurs des pays africains accrédités à Kinshasa. Ces derniers lui expriment leur soutien total. Ceci pour un dialogue politique censé ouvrir la voie à des élections apaisées en République démocratique du Congo, affirme Clément Yandoma, ambassadeur du Congo en RDC et porte-parole du groupe. Même soutien de la délégation de l'Union européenne en RDC. Dans une déclaration publiée mercredi à Kinshasa, la délégation locale de l'Union européenne exhorte le gouvernement congolais et toutes les autres parties concernées à créer des conditions nécessaires pour les démarrages effectifs et rapides du dialogue national. Pour rappel, c'est depuis près de 10 mois, donc depuis novembre 2015, que le président Joseph Kabila a annoncé ses dialogues. Aujourd'hui, tout le monde semble s'accorder sur la nécessité de cette rencontre, nonobstant bien entendu les préalables du rassemblement de l'opposition.
Merci Jean-Pierre Elali pour cette analyse.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le bureau de consultance en genre et en développement œuvre pour la promotion des droits de la femme en RDC et bénéficie à cet effet de l'appui des agences onusiennes intéressées par cet objectif. La lutte contre les violences faites aux femmes, notamment les violences sexuelles, figure donc parmi les axes principaux de l'action de ce bureau. Monsieur Eddy Have, expert en genre de cette structure, répond aux questions d'Honoré Missinga.
Eddy Have, bonjour. Bonjour Monsieur Honoré.
Quelle est la mission du bureau de consultants en genre et en développement?
La mission de cette structure est d'accompagner les femmes dans ce qu'elles font, mais aussi de vulgariser et de véhiculer le message relatif aux lois qui protègent les femmes. Au-delà de ça, le bureau a comme mission d'accompagner les jeunes dans ce qu'ils font pour que les droits soient promus. Voilà en grande ligne les quelques missions que le bureau poursuit.
Le 19 juin, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en période de conflit. Qu'est-ce que votre structure a organisé par rapport à cette journée ?
En marge de la journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en période de conflit, il conviendra de dire que les Nations Unies ont ce qu'on appelle la résolution 1325, qui actuellement a totalisé 15 ans. À l'intérieur de cette résolution, il y a une disposition qui évoque la lutte contre les violences sexuelles. Mais il conviendra de dire aussi que, au-delà du fait qu'il y avait cette disposition, les Nations Unies ont constaté que les atrocités envers les femmes et les filles étaient toujours persistantes. Et donc, en voulant éradiquer les violences sexuelles sous toutes leurs formes, alors les Nations Unies ont décrété le 19 juin de chaque année une journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles. Alors, qu'est-ce que nous avons fait, nous, principalement, le bureau ? Nous avons continué à sensibiliser les populations. Nous sommes passés par la radio Capi, par la télévision. Et l'UNFPA nous a soutenus pour que nous puissions atteindre en tout cas une majorité importante des personnes afin que la majorité soit au courant des avancées au niveau des textes juridiques. Même au niveau des églises, nous avons véhiculé le message pour que la population soit au courant et s'approprie de cette résolution qui est en vigueur à l'heure actuelle.
Oui, en dehors de messages dans les églises, quelle autre stratégie vous avez utilisée pour véhiculer ce message?
Un autre canal, c'est le milieu des jeunes. Nous avons commencé déjà à organiser quelques ateliers avec une poignée de jeunes parce qu'on s'est dit, cette question liée au genre, à la lutte contre les violences sexuelles, est une matière qui est souvent entretenue entre adultes. Mais on laisse la composante jeune, alors que les violences sexuelles se vivent à tous les niveaux. Aller dans les milieux où il y a une promiscuité aiguë, il se vit là-bas même les questions des viols. Donc nous avons estimé qu'il était utile pour nous aussi d'approcher la composante jeune avec laquelle conjuguer les efforts. Et donc on a commencé une série d'ateliers. On a commencé à Kinshasa, mais nous allons continuer en province. Mais aussi, nous avons touché les entreprises publiques. Vous savez que cette matière de lutte contre les violences sexuelles, c'est une matière qui est vaste parce que la lutte contre les violences sexuelles ne signifie pas qu'on les vit qu'en milieu de guerre, même dans les milieux domestiques. Et donc, nous avons touché les entreprises et à l'heure actuelle, nous avons sensibilisé la DGDA, l'INSS, CEP Congo, l'OCC, la DGRAD et donc on a une masse assez importante où nous véhiculons les messages sur la lutte contre les violences sexuelles.
Merci, je comprends bien ce message, c'est plus à Kinshasa. Quand vous me parlez de toutes ces entreprises, c'est ici à Kinshasa.
Pas du tout. Nous avons travaillé avec les quelques entreprises à Kinshasa, mais aussi nous travaillons avec les entreprises au niveau de toutes les 11 provinces avec l'ancienne configuration. Mais avec le nouveau démembrement, nous espérons que les directeurs d'entreprises qui nous écoutent, lorsque nous allons les approcher à nouveau, vont encore nous donner cette opportunité de pouvoir faire les 26 provinces pour véhiculer le message et que la population qui travaille s'en approprie.
Quand on parle des violences sexuelles ici en RDC, en période de conflit, on voit plus les contrées de l'Est qui sont depuis plus d'une vingtaine d'années confrontés au conflit armé. Est-ce qu'il y a des actions spéciales que vous avez menées ou que vous êtes en train de mener ou que vous projetez de mener dans cette région de l'Est du pays?
C'est vrai, la résolution qui a été adoptée au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies a évoqué la lutte contre les violences sexuelles en période de conflit. Mais il convient de dire aussi que les violences sexuelles ne sont pas seulement vécues en situation de conflit. Chaque État membre des Nations Unies doit contextualiser cette résolution. Et c'est vrai, la difficulté avec nos communautés locales, c'est souvent le manque d'informations. Et donc nous, comme bureau de consultance en genre, nous avons mis un accent particulier sur l'appropriation. Nous voulons que les populations elles-mêmes prennent la responsabilité de pouvoir éradiquer cette question des violences sexuelles. Mais aussi, nous savons que la difficulté, elle est grande. Elle est très grande parce que souvent celles qui sont victimes des violences sexuelles, pour la majorité, ce sont les femmes qui sont démunies. Elles sont aussi à l'Est. Mais nous travaillons aussi avec des communautés, des organisations qui sont sur place, qui accompagnent les victimes parce que souvent quand quelqu'un est victime des violences sexuelles ou des viols au niveau des communautés de l'Est, la première chose, la personne est rejetée. La deuxième chose, l'enfant issu de ce viol est peut-être réprimé. Et rejeté, refoulé. Et donc, comme bureau, nous travaillons pour continuer à sensibiliser davantage pour que les communautés sachent ce qu'il y a. Et donc, par rapport à la situation de l'Est, nous avons envisagé une descente probablement début août, où nous allons aller à Panzi pour essayer de commémorer. Peut-être je profite pour informer à la population que le 31 juillet de chaque année, l'humanité célèbre ce qu'on appelle la Journée internationale de la femme africaine. Et donc, nous nous sommes dit, entre la Journée internationale de la femme africaine et la Journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles, nous allons faire d'une pierre deux coups et nous allons descendre à l'Est du pays, principalement à Bukavu, où nous allons partager un sourire avec toutes ces femmes victimes de violences et qui sont prises en charge par les organisations sur place.
Alors, quels sont vos rapports avec les agences onusiennes? Vous avez parlé des UNFPA. Est-ce que vous êtes en partenariat avec d'autres agences?
Absolument. On ne peut qu'être en partenariat parce que cette interaction, nous qui sommes sur le terrain, nous qui travaillons avec le ministère de la Femme, nous qui travaillons avec les organisations communautaires, etc., nous ne devons qu'avoir parce que chaque fois, qu'on le veut ou non, il y a toujours des cadres qui nous réunissent. Mais aussi, je dois avouer que la dame qui s'occupe des questions du genre au niveau de l'UNFPA, en tout cas, elle a été pour nous un soutien indéfectible. Quand il y a des projets, par exemple, elle nous appuie. Et lorsque nous avons recueilli les éléments sur le terrain, on essaie de les lui ramener comme UNFPA, mais aussi à d'autres comme ONU Femmes qui nous accompagnent. Et même quand nous sommes sur le terrain, lorsqu'il est question, par exemple, de travailler avec les entreprises publiques de l'État, nous recourons auprès des agences du système des Nations Unies. Et elles sont là. Il y a Madame Catherine de ONU Femmes, il y a Madame Mireille Colli, il y a Monsieur Ngoy de UNFPA. Et donc il y en a bien d'autres qui viennent, en tout cas la collaboration elle est parfaite, mais je regrette quand même, peut-être je vais l'évoquer, le départ de Madame Elsie et Fangembela qui était ici à la division genre, qui en tout cas nous a soutenus avec deux mains. Au début, lorsqu'on était en train d'installer le bureau, elle a été pour beaucoup, elle nous a soutenus pour que le bureau s'approprie de la documentation et participe à des grands panels au niveau régional, à Gaborone, à Addis et peu partout. Et donc la collaboration pour répondre à cette question, elle est parfaite, je dois l'avouer, parce que je suis au quotidien avec tous ceux qui travaillent avec nous.
Monsieur Diave, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Nous ouvrons cette page de nouvelles en bref avec la suite de la campagne contre la présence des enfants dans les groupes armés, lancée le 16 juin dernier par la MONUSCO. À l'instar des Léopards Football Senior, le basketteur congolais de la NBA, Bismarck Biyombo, s'est joint sur la liste des ambassadeurs de bonne volonté pour soutenir les efforts entrepris par la MONUSCO et ses partenaires dans le cadre de cette campagne en vue d'atteindre l'objectif zéro enfant soldat en République démocratique du Congo. Lutte contre l'insécurité à Beni Oicha, au total 100 appels reçus dans la semaine sur les numéros verts pour 26 interventions et 7 interpellations pour des infractions de droit commun. Information de UNPOL, la police de la MONUSCO. Résultat donc de la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle intégrée de lutte contre l'insécurité dans cette contrée de la province du Nord Kivu. Dans la même semaine, les différentes unités de police constituées FPU ont poursuivi leur mission de protection des populations. Enfin, commémoration de la journée de la femme africaine le 31 juillet. La section genre de la MONUSCO Goma et ses partenaires locaux ont sensibilisé sur le genre, le développement endogène et la participation active de la femme dans la gestion de la chose publique, mais également la cohabitation pacifique entre les communautés. L'activité avait pour objectif d'éveiller la conscience des chefs locaux à prendre en compte les perspectives genre dans l'exercice de leurs fonctions, mais également sensibiliser les femmes à la participation et à la gestion de la chose publique, en commençant par la gestion de leur quartier.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La communauté internationale consacre le mois d'août à l'allaitement maternel. Le thème cette année est l'allaitement maternel, une clé pour le développement durable. Alors le magazine des Nations Unies reçoit à cet effet Madame Annie Mitelesi, administrative chargée de la nutrition à l'UNICEF. Elle va évoquer l'état de lieu de l'allaitement en RDC, les avantages ainsi que l'implication de l'UNICEF dans les actions de sensibilisation. Elle s'entretient avec Jean-Pierre et Lali Coco.
Docteur Annie Mitelesi, bonjour.
Bonjour.
La communauté internationale consacre cette semaine à l'allaitement maternel. Ici en République démocratique du Congo, quel est l'état des lieux de l'allaitement maternel aujourd'hui?
Selon l'étude Mix 2013, elle nous montre que 98% des enfants sont allaités au sein. Cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, la quasi-totalité des enfants sont allaités en RDC. Toutefois, pour bénéficier de multiples avantages de l'allaitement maternel, il faut que l'allaitement soit exclusif, que l'enfant soit mis au sein dans l'heure qui suit l'accouchement et donc après 6 mois, on puisse continuer l'allaitement jusqu'à l'âge de 10 ans.
Quels sont les avantages qu'on peut avoir lorsqu'on allaite exclusivement en sein maternel?
Oui, l'allaitement maternel exclusif ou l'allaitement maternel comporte beaucoup de avantages pour l'enfant, pour la mère, pour la famille ainsi que pour la communauté. Le lait maternel contient du colostrum, donc les premiers laits jaunâtres qui constituent le premier vaccin pour l'enfant et qui le protège contre les maladies. Le lait maternel apporte tous les éléments nutritifs et contient beaucoup d'eau, donc 87% d'eau. Il protège l'enfant contre les maladies dont la diarrhée, l'obésité, la malnutrition, les infections respiratoires aiguës. Et donc, il renforce le système immunitaire de l'enfant et le protège contre les maladies. Permet la croissance et le développement harmonieux du nourrisson et empêchant ainsi le retard de croissance. Et il favorise également le développement du cerveau et augmente le quotient intellectuel. Renforce les liens affectifs entre la mère et l'enfant.
Lorsqu'on allaite beaucoup trop l'enfant, est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient?
Il n'y a pas d'inconvénient. Donc, on dit que c'est l'aliment idéal. Et donc, les autres éléments viendront seulement compléter. Tout ça, c'est pour lutter contre la malnutrition qui survient dans les 1000 premiers jours. Ça veut dire que, donc, durant la grossesse et jusqu'à ce que l'enfant va totaliser 2 ans, ce qui fait les 1000 premiers jours, c'est là la fenêtre d'opportunité. Nous devons essayer d'agir pour protéger l'enfant.
Selon l'enquête que vous venez de citer, donc, indicateur multiple, c'est ça.
Ouais.
52% d'enfants en République démocratique du Congo sont nourris, bien sûr, du sein maternel, mais si on voit bien, c'est encore une moitié qui ne bénéficie pas totalement de cet allaitement maternel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'allaitement maternel soit effectif en République démocratique du Congo?
Oui, bien sûr qu'il y a, comme vous l'avez dit, qu'il y a environ la moitié des enfants qui ne bénéficient pas des bienfaits de l'allaitement maternel. Pour ce faire, nous devons essayer de faire la communication pour faire la promotion de l'allaitement maternel à travers la sensibilisation dans les masses médias et donc dans les télé, radios, télévisions, y compris les radios communautaires. Nous devons essayer un peu de faire cette promotion également au niveau des services de santé, donc au niveau des soins curatifs. Donc lorsque l'enfant est malade, donc au niveau de l'accouchement, au niveau des prises en charge de l'enfant lorsqu'il est malade, ainsi qu'au niveau des soins préventifs, donc durant les consultations prénatales, les consultations préscolaires, ainsi que les consultations postnatales, ainsi que durant la vaccination.
Je voudrais parler d'une catégorie de femmes, donc celles qui travaillent, elles éprouvent plutôt des difficultés pour allaiter leurs enfants. Comment permettre à ces femmes qui travaillent, qui n'ont pas assez d'horaires et de repos pour essayer d'allaiter comme il faut leurs enfants, madame?
Ok, les femmes qui travaillent, nous devons essayer un peu de les aider à faire cet allaitement maternel au lieu de travail. Donc là, il faut accorder du temps. Nous devons essayer d'accorder du temps aux mères travailleuses allaitantes en leur accordant un congé de maternité. Une ou plusieurs pause d'allaitement durant les heures de service et essaie de faire les horaires aménagés. Et également, nous pouvons réserver des espaces pour allaitement au lieu de travail.
Peut-être un bureau ou quoi? Un local pour
un
allaiter
local.
Les enfants.
Oui, un local, on peut appeler garderie ou quelque chose, on aménage au lieu de travail, un endroit propre où on pourrait aider les mères à aller allaiter à chaque fois.
Mais là, les enfants auront à faire beaucoup de bruit, le lieu de travail va se transformer en maternité. Hein?
Non, c'est pas maternité. On ne pense pas que non, dans un lieu de travail qui est 5 femmes ou 10 femmes qui allaitent au même moment. On peut avoir 2 femmes, une femme, et ainsi de suite. Donc, dans un local, juste un local bien enfermé, bien, on met les jouets, tout ça. Également, on peut faire les endroits privés où la femme peut venir exprimer les laits. Donc, on peut presser les laits pour donner à l'enfant.
Vous avez évoqué tout à l'heure la sensibilisation. Quelle est l'implication de votre organisation à l'allaitement maternel en République démocratique du Congo?
L'UNICEF appuie techniquement, tout comme financièrement, le gouvernement, les centres de santé, les hôpitaux, les ONG et toutes les autres institutions qui font la promotion de l'allaitement maternel. Ils les appuient dans ce sens en élaborant les politiques, les directives ainsi que les stratégies pour la promotion de l'allaitement maternel. Et ils dotent les outils de communication pour cet allaitement et organisent les formations et appuient également les suivis et les supervisions des activités. Cette question nous offre l'opportunité de lancer un appel à tout le monde, au gouvernement, la société civile, aux agences des Nations Unies, aux partenaires techniques et financiers et aux autorités morales et religieuses à s'engager résolument dans la promotion de l'allaitement maternel et en faire une norme sociale.
Et Madame Radio Capi, je vous remercie d'être venue dans ces studios.
Merci, Monsieur Lali.
Restons à Kinshasa où la Banque africaine de développement reconnaît la performance économique des pays du continent, y compris la RDC. C'est en tout cas ce qui ressort de son rapport de 2016 intitulé « Perspectives économiques en Afrique ». L'essentiel de ce rapport avec Jean-Désiré Kanyama.
À l'instar des éditions précédentes, le rapport 2016 passe en revue la performance économique récente de l'Afrique et formule des projections à moyen terme pour les continents, mais aussi pour les différentes régions et pour chacun des 54 pays du continent. Ayant pour thème « Ville durable » et transformation structurelle, ce rapport crible les enjeux de l'urbanisation croissante et de la transformation structurelle en Afrique. Il fait également état des propositions concrètes pour promouvoir des villes durables. En ce qui concerne la RDC, la croissance de son économie a décéléré à 7,7% en 2015 contre 9,2% en 2014, mais une tendance qui devrait se poursuivre en 2016 avec un rebond de 8% attendu à partir de 2017. Par ailleurs, la pauvreté reste largement répandue dans le pays, même s'il a réalisé d'importants progrès dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Par contre, l'indice de développement humain de la RD Congo est en progression, pendant qu'il reste à relever le principal défi politique d'organiser les élections dans les délais constitutionnels pour consolider les acquis du processus démocratique, rappelle l'ABAD dans son rapport Perspectives africaines 2016. Les principaux leviers de la croissance de la RDC sont les secteurs de l'extraction, des transports et télécommunications, de l'industrie manufacturière, du commerce ainsi que de l'agriculture, indique ce rapport.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Et la question de ce dimanche vient de Goma. Elle est en rapport avec le détournement des rations militaires à Beni. La réponse, vous allez la suivre avec Théophane Kinda, porte-parole ad intérim de la MONUSCO.
C'est Inga Paterne. Et je voulais poser la question en rapport avec ce qui se passe à Beni pour le moment. Les années antérieures, à l'époque du M23, quelques officiers étaient condamnés pour le détournement des rations militaires. Cette année-ci, à Beni, quelques officiers ont été arrêtés pour le détournement des rations militaires et relâchés par force par leurs commandants. La MONUSCO continuera-t-elle à supporter les FRDC au moment où le détournement des rations militaires continue toujours à être présenté sur les lieux?
Par rapport à cette question de rations militaires, disons que nous avons un agrément, nous avons des ententes, nous avons signé un accord avec le gouvernement dans le cadre de nos opérations. Et cet accord ne s'arrête pas seulement à une question de rations. Et c'est un processus global. Il faut le prendre dans son ensemble. Maintenant, s'il arrive, nous remarquons par exemple qu'il y a des problèmes qui surgissent dans la mise en œuvre de ce processus d'entente, de coordination et autres, nous allons tout simplement discuter, s'asseoir, discuter, dialoguer et voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Christian Lomombe Manga, DJ Daddy. Je suis marié, père de 3 enfants. Je suis gradué en musique à l'Institut National des Arts. À la Radio Capi, je suis programmeur musical, chroniqueur musical et producteur de 2 émissions de musique au Capi Retro et au Capi Danse. Je suis à Radio Capi voilà 12 ans. Quand j'arrive le matin à mon bureau, d'abord c'est lire le mail, voir les chansons qui me sont envoyées. Et puis je suis sur mon logiciel de programmation musicale et après je fais de montage et de mix pour mes émissions de la nuit. Et il m'arrive aussi de faire quelques sorties, quelques reportages pour... les émissions comme Métissage. Avant Radio Capi, je faisais de la musique, mais de manière très amateur. Et j'ai eu quelques formations de prise de son. Je n'ai pas vraiment travaillé comme tel. Donc Radio Capi, c'est mon premier boulot où j'ai eu toute la vraie formation. Mes temps libres, je suis souvent à la maison, je suis un grand cinéphile, je regarde souvent le film et j'aime bien passer mes temps avec des amis. Le genre de musique que j'aime, ça va peut-être vous étonner, ça n'a rien à voir avec ce que je balance à la radio. J'écoute plutôt du jazz, de la vieille musique congolaise, du pop et du rock. Le sport comme tel, je pratique presque pas. J'aime bien manger les gombos. Mes projets d'avenir, c'est créer une vraie radio, alors une vraie radio musicale avec des normes internationales. Donc c'est un peu ça.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Deux rendez-vous dans vos agendas cette semaine. Le 9 août prochain, notez que la communauté internationale la dédie aux peuples autochtones. Et le 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse. Et c'est déjà la fin de ce magazine des Nations Unies. Grand merci à Jean-Pierre Elali Coco qui l'a coordonné. Il est également au reportage. Honoré Missinga au reportage également. Martin Sebujangola supervisé. André Mongo à la mise en onde. Je suis Tina Salama. Le plaisir a été le mien, comme tous les dimanches. On se retrouve donc dimanche prochain à la même heure, sur la même fréquence. Vous voulez réécouter ce magazine? Une seule adresse, www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous. À bientôt.